24 au 29 mars, c'est la 36e semaine de la presse et des médias.
Plus de 1000 établissements de l'Académie de Nantes participent à cet événement pour aider les élèves de la maternelle au lycée à mieux comprendre le monde de l'information et à affûter leur esprit critique.
Radio G s'associe à cette semaine spéciale et vous donne rendez-vous chaque jour à 14h pour un atelier dédié aux médias et à l'information. Où est l'info ? Dans un monde saturé de contenu, comment distinguer le vrai du faux ? Comment des jeunes ont-ils manipulé l'information pour mieux la comprendre ?
Découvrez leur expérience et leurs résultats tout au long de la semaine.
Du 24 au 29 mars, rendez-vous à 14h sur Radio G pour ne rien manquer. Plus d'infos sur radio-g.fr. Radio G, savourez nos différences. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio G. J'espère que vous êtes bien installés, prêts à nous écouter. Moi c'est Astrid et je suis avec Héloïse, Anne-Sophie et Manon. Est-ce que ça va les filles, pas trop stressées d'être à la radio ?
Si un peu.
Et toi Manon ?
Non ça va.
Ok. Aujourd'hui nous sommes réunis pour parler du féminisme. Le féminisme est une doctrine qui prône une revalorisation du rôle des femmes dans la société. Ce terme est utilisé en 1872 par Alexandre Dumas, fils, qui le met de manière ironique dans son livre « L'homme-femme » pour qualifier les partisans du droit des femmes. C'est la militante féministe Hubertine Auclair, la toute première féministe autoproclamée, qui, en 1882, réemploie ce terme et le popularise en lui donnant son sens moderne de lutte en faveur des droits des femmes. Aujourd'hui, beaucoup pensent que le féminisme n'a plus lieu d'être, car ils croient qu'enfin, les problèmes d'inégalité entre hommes et femmes sont réglés. Pourtant, encore aujourd'hui, énormément de femmes souffrent d'inégalités et même bien souvent de misogynie. Nous allons donc plus nous intéresser ensemble sur la question du féminisme, en commençant par une chronique présentée par Héloïse. Ensuite, nous passerons à une présentation et écoute d'une musique avec Manon. Et pour finir, nous aurons un débat dirigé par Anne-Sophie. Alors maintenant, je vous laisse en espérant que vous allez passer un bon moment avec Héloïse.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme qui a porté le mouvement féministe pendant toute sa vie et qui le porte encore dans nos esprits malgré sa mort. Il s'agit évidemment de Simone Veil. Depuis toujours, des femmes se battent pour leurs droits et pour obtenir un minimum de respect de la part des hommes. Dès la fin du Moyen-Âge, des auteurs critiquaient déjà la place accordée aux femmes dans la société. À cette période, les femmes n'avaient malheureusement pas le droit de donner leur avis. Il faudra attendre le 19e siècle et le début du 20e avec la première vague du mouvement féministe pour que les femmes revendiquent le droit de vote, les conditions de travail et les droits à l'éducation pour les femmes et les filles. La deuxième vague, en 1960 à 1980, dénonce, elle, l'inégalité des lois, mais aussi les inégalités culturelles et remet en question le rôle des femmes dans la société. Enfin, la troisième vague, qui débute à la fin des années 1980 et se termine au début des années 2000, est perçue à la fois comme une continuation de la deuxième vague et une réponse à l'échec de celle-ci. Aujourd'hui, les femmes continuent à se battre pour leurs droits, car tout n'est pas encore parfait et ne le sera sûrement jamais. Le mouvement féministe a été marqué par l'action de différentes personnalités telles que Olympe de Gouges, une écrivaine dramaturge et militante française pour les droits des femmes, en particulier le droit au divorce et l'égalité des droits entre hommes et femmes. Simone de Beauvoir, écrivaine, philosophe et théoricienne française qui a écrit Le Deuxième Sexe, un ouvrage clé du féminisme en France et dans le monde. Elle a aussi marqué ce mouvement. C'est grâce à de nombreuses personnalités telles que ces femmes que le féminisme a pu se développer. Celle dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelait Simone Veil. Simone Veil, née le 13 juillet 1927 à Nice et morte le 30 juin 2017 à Paris, était une magistrate et une femme d'État française. Née dans une famille de confession juive, elle sera déportée à Auschwitz à l'âge de seulement 16 ans, durant la Shoah, où elle perdra son père, son frère et sa mère. Après ça, elle apprendra qu'elle a été reçue au baccalauréat, seule de toute l'académie à avoir passé le bac en 1944, et elle rentrera dans une faculté de droit et dans l'institution d'études politiques de Paris. En 1974, elle sera nommée ministre de la Santé par le président Valéry Giscard d'Estaing. Il la chargera de faire adopter la loi légalisant le recours à l'interruption volontaire de grossesse. Cette loi sera ensuite couramment désignée comme la loi Veil. C'est à partir de cet événement qu'elle apparaîtra comme une icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France, sachant qu'à cette période, seulement 40% des Françaises de l'époque travaillent. Elle sera élue parlementaire européen au suffrage universel à la tête de la liste UDF et deviendra la première présidente du Parlement européen, fonction qu'elle occupera de 1979 à 1982. Durant sa carrière, elle fera voter beaucoup de lois pour le droit des femmes et des personnes en situation de handicap, telles que les aides financières à destination des mères d'enfants en bas âge et une loi d'orientation en faveur des handicapés. Grâce à elle, ces lois sont toujours de vigueur aujourd'hui. Sur la décision du président Emmanuel Macron, Simone Veil fait son entrée au Panthéon avec son époux le 1er juillet 2018. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté en espérant que cette chronique vous a plu.
Merci Héloïse pour ta chronique enrichissante et maintenant je laisse la parole à Manon.
Moi je vais vous présenter une musique qu'on a choisie sur notre sujet. Elle s'appelle L'amour de Paris Paloma. Cette musique est sortie le 24 mars 2023 par la jeune compositrice britannique Paris Paloma. Un clip officiel est sorti le 23 mars 2024. Il figure donc sur le premier album de Paloma, Cacophonie, sorti le 30 août 2024. Le morceau est décrit comme l'une qui aborde les questions d'inégalité sur les sexes au sein des structures sociétales. Label de The Company compte plus de 16 millions de streams sur Spotify en septembre 2024. Sur son clip vidéo, compte plus de 33 millions de vues sur YouTube. Elle cumule plus de 40 000 utilisations sur l'application TikTok, où il accompagne la plupart des vidéos sur le féminisme, mais aussi aidant les femmes à dénoncer les actes de misogynie, des violences conjugales, d'agression ou de violences sexuelles ou sexistes qui peuvent recevoir au quotidien. La chanson est ainsi devenue la voix de toutes celles qui s'identifient à ces paroles en leur donnant ou redonnant la force face à ces situations. Off this island, this was an escape plan. Carefully timed it, so let me go and dive into the waves below. Who tends the orchards? Who fixes up the gables? Emotional torture from the heavy high table. Who fetches the water?
Stabbing with your fork. I know you're a smart man. I know you're a smart man. And weaponized the false incompetence. It's dominance under a guy. If we had a daughter, I'd watch and could not save her. The emotional torture from the head of your high table. She'd do. Finger 24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her. You make me do too much labor. All day, every day, therapist, mother, maid, nymph, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, live to attend him so that he never lifts a finger. 24/7 baby machine, so he can live out
Merci Manon de nous avoir partagé cette musique. Maintenant, place au débat, animé par Anne-Sophie.
Merci Astrid. La question centrale que nous poserons au cours de ces débats est la suivante. Est-ce que les femmes qui ont subi une discrimination fondée sur le sexe ont raison de commettre des actes de misandrie ? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, définissons les termes clés. La misandrie est le fait d'éprouver des sentiments de haine et de mépris envers les hommes. Elle peut se manifester par des généralisations négatives comme des affirmations telles que « tous les hommes sont violents » ou « les hommes sont incapables d'émotions ». Elle peut également se manifester par des moqueries sur la masculinité ou encore la minimisation des problèmes des hommes. Alors, pourquoi cette question ? Parce que la discrimination sexiste, en particulier la misogynie, persiste dans notre société et continue d'affecter la vie de nombreuses femmes. Passons maintenant à notre première question. Connaissez-vous beaucoup de femmes en France qui subissent de la discrimination ? Qu'en penses-tu, Manon ?
Dans mon entourage, oui.
Et toi, Héloïse ?
Bah, il y a énormément de femmes qui subissent de la discrimination, donc on en rencontre forcément dans notre vie, autour de nous.
Et toi, Astrid ?
Bah, personnellement, toutes les femmes que je connaisse ont déjà subi une forme de discrimination, en tout cas la plupart.
En effet, 53% des filles et des jeunes femmes en France ont été victimes de sexisme ou en ont été témoins dans leur scolarité. En 2024, 8 femmes sur 10 ont été confrontées à des attitudes sexistes au travail et 9 femmes sur 10 déclarent avoir personnellement subi une situation sexiste. Ces chiffres montrent donc l'ampleur du problème et justifient la colère ressentie par certaines femmes. Passons à notre deuxième question. Pensez-vous que beaucoup de femmes comptent se défendre contre ces actes discriminatoires ? Et si c'est le cas, comment le font-elles ? Qu'en penses-tu, Héloïse ?
Je pense qu'elles peuvent essayer de se défendre, mais après, c'est pas toujours entendu, alors c'est un peu décourageant. Si tu veux te défendre et que t'es pas entendu après par les personnes au-dessus de toi.
Et toi, Astrid ?
Bah ouais, je suis plutôt d'accord avec Héloïse. C'est compliqué de se défendre. Bah, ça fait peur, toutes ces discriminations. Mais pour autant, bah, faut pas se laisser faire.
Et toi, Manon ?
Moi, je suis complètement d'accord avec Héloïse et Astrid.
En effet, en 2024, 2 femmes sur 3 ne savaient pas vers qui se tourner en cas d'acte sexiste. Néanmoins, certaines parviennent à se défendre et à agir. Il peut s'agir d'une confrontation directe, d'un signalement ou d'un recours à la justice, bien que souvent compliqué, pour porter plainte. Mais les actions que les femmes peuvent entreprendre sont limitées, et bien souvent, les femmes ont peur de se défendre ou les solutions sont tout simplement trop difficiles à mettre en œuvre. Après avoir abordé ces différents aspects, revenons à notre question principale. Est-ce que les femmes qui ont subi une discrimination fondée sur le sexe ont raison de commettre des actes de misandrie. Qu'en penses-tu, Manon ?
Je sais pas du tout.
Et toi, Astrid ?
Bah, je pense que non, elles ont pas raison, parce que c'est pas parce que nous, on subit en tant que femmes des actes discriminants qu'on doit aussi être soit méchante avec des personnes. Il faut pas se rabaisser à être pareil qu'eux et à être mauvais.
Et toi, Héloïse, est-ce que tu es d'accord ?
Bah, moi, je suis d'accord avec Astrid. Et puis, si on dénonce le fait qu'il y a de la discrimination de notre côté, il ne faut pas faire la même chose. Sinon, ça n'a aucune logique. On ne peut pas dénoncer que les hommes font de la discrimination si de notre côté, on fait la même chose. Donc, moi, je pense qu'elles n'ont aucunement raison de faire ça.
Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Vous pouvez continuer à en parler entre vous. On continue notre émission et je redonne parole à Astrid.
Merci Anne-Sophie pour ton débat. Alors chers auditeurs, rappelez-vous que nous avons d'abord commencé avec une chronique culturelle dirigée par Héloïse qui nous a présenté Simone Veil, une femme qui a remué la France avec son opinion et ses idées. Ensuite, Manon nous a fait découvrir une musique du nom de Leibur, créée par Paris Paloma et publiée le 24 mars 2023. Nous avons ensuite clôturé avec un débat animé par Anne-Sophie qui traitait des sujets de la misandrie et de la misogynie. Je vous remercie donc les filles de nous avoir partagé ces informations diverses qui j'espère vous auront permis à vous, auditeurs, d'en savoir plus sur le sujet du féminisme. Merci les filles de nous avoir communiqué votre bonne humeur et votre enthousiasme durant ce merveilleux moment passé ensemble. Et surtout, merci à vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez autant apprécié que nous cet instant et que nous avons transmis de nouvelles connaissances. Moi, c'était Astrid, j'étais ravie de vous animer cette émission. Au revoir.
Alors, attends, non, tu parles pas.
Alors les filles, vous, comment est-ce que vous avez trouvé ce moment ?
Moi j'ai bien aimé, j'étais stressée au début, mais franchement ça s'est bien passé, j'ai trouvé.
Et toi Anne-Sophie ?
Je pense pareil, j'étais beaucoup stressée au début, mais ça allait.
Et Manon ?
C'était cool, c'était bien.
Je vous informe que malheureusement, nous étions censés avoir une autre chronique présentée par Chloé, mais elle n'a pas pu être là, mais nous la remercions tout de même de son investissement dans le groupe.
Bravo.
Bienvenue sur Radio G. Aujourd'hui, on a un sujet qui va certainement vous intéresser. On va parler du voyage et plus particulièrement, est-ce qu'il est possible de voyager loin en 2025 avec un budget raisonnable ? Alors, on parle souvent de voyager loin, d'explorer de nouveaux horizons. Et franchement, qui n'a jamais rêvé de s'évader à l'autre bout du monde ? Mais voilà, avec les prix qui augmentent partout, on se dit souvent, voyager loin, c'est devenu un luxe. Et pourtant, je suis convaincu qu'il existe des solutions pour voyager sans se ruiner. Parce qu'en 2025, même avec un budget serré, il y a encore moyen de vivre des expériences incroyables, de découvrir de nouvelles cultures, de goûter à l'aventure sans exploser son compte en banque. C'est un sujet qui fait beaucoup réagir, et pour en discuter, je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis en compagnie de Calix Chauvel, le réalisateur qui vous a préparé de super musique.
Bonjour à tous.
À côté de nous, nous avons également Maxime Foulon.
Bonjour.
Et Thomas Martinier.
Salut.
Qui vont nous donner leur expertise sur le sujet. Et Marius Poisson qui va diriger le débat.
Bonjour.
Donc, Maxime, on t'écoute.
Aujourd'hui, dans l'ère du voyage, où on voyage toujours plus loin et de plus en plus souvent, je vous emmène sur les plages pas si paradisiaques qui attirent tant. Aujourd'hui, on vous présente les solutions aux problématiques écologiques et économiques pour continuer à voyager. Nous le savons tous désormais, depuis le début des années 2000, le secteur touristique est confronté à d'importantes problématiques écologiques et économiques. Une étude montre que 64% des jeunes prévoient de voyager plus qu'avant dans les prochaines années. Une tendance dans laquelle s'inscrivent 38% des répondants, tout âge confondu. Les résultats records d'Air France, qui anticipent une hausse de la demande en 2025, ne semblent pas dire le contraire. Mais peut-être que cette tendance va se heurter à des problèmes économiques et écologiques. En effet, à partir du 1er mars 2025, les prix des billets vont augmenter d'environ 5 euros. Cette hausse est à l'initiative du gouvernement français pour inciter à moins utiliser l'avion pour voyager car les vols génèrent énormément de dioxyde de carbone. J'ai choisi de vous parler de ce sujet parce que selon moi, ces problématiques sont trop peu connues. Bien sûr, je ne vous incite pas à arrêter de voyager. En effet, je vous rassure, de gros progrès dans le domaine de l'aéronautique vert nous rassurent concernant la mise sur le marché d'avions à hydrogène. Cet espoir est dû par exemple à la start-up H2Fly, qui a réalisé avec succès le premier vol au monde d'un avion à propulsion électrique alimenté par une pile à combustible et un réservoir d'hydrogène liquide. Concernant les projets à venir, on peut citer Airbus, qui veut, à travers son programme 0E, commercialiser un avion de série propulsé à l'hydrogène en 2035. Merci de m'avoir écouté, bonne journée à tous.
Donc maintenant on va passer à Kelly qui va nous présenter son artiste et sa musique.
Donc bonjour à toutes et à tous, c'est Kaylig et je vais vous présenter une musique. La musique que nous avons choisie se nomme Voyage Voyage et est parue en 1986 dans l'album François. Cette chanson a été écrite par Jean-Michel Riva pour le chanteur Michel Delpech, mais celui-ci l'a refusée, c'est donc Desireless qui l'a interprétée. Desireless, de son vrai nom Claudie Fritz Mantraux, est née le 25 décembre 1952 à Paris et est donc chanteuse. Elle est connue pour ses singles Voyage Voyage et John et a réalisé plusieurs albums. Dernièrement, elle a publié un documentaire en 2018 sur sa chaîne YouTube qui retrace son parcours de 2013 à 2017. Et elle n'a pas déclaré avoir de nouveaux projets futurs pour le moment. Nous avons choisi cette chanson pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ses paroles ont un double sens, en parlant à la fois des voyages en termes de distance, mais également des voyages initiatiques et intérieurs. Nous l'avons aussi choisi pour son titre qui fait directement référence à notre thème « Le voyage », et parce que de manière plus subjective, nous aimons bien cette musique. Maintenant, place au voyage!
Vous êtes de retour sur Radio G et c'était Voyage Voyage de Desireless. Donc maintenant on va passer au débat, Marius.
Oui, donc bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du voyage. En effet, voyager nous incite à avoir une ouverture sur le monde extérieur. On peut observer que chaque année, le nombre de voyageurs augmente considérablement, en passant de 450 millions en 2021 à 1,3 milliard en 2023 de touristes dans le monde. Mais malgré l'augmentation du nombre de voyageurs, il y a aussi une augmentation nette des prix. Donc pour répondre à cela, nous allons voir la grande question: est-il encore possible de voyager loin avec un budget raisonnable en 2025? Et pour répondre à ceci, on va répondre à trois petites questions. Donc pour commencer, peut-on réaliser des activités intéressantes en voyage? Qu'en pensez-vous? Dis-moi Thomas.
Moi je pense qu'on peut en faire plein. Par exemple, on peut bien visiter les monuments historiques d'une ville. Ou bien alors aller, s'il y a des espaces verts à côté, eh bien les visiter.
Ouais, on peut aussi faire du shopping ou se détendre à la plage. Ou aussi aller voir des lieux culturels, comme tu l'as dit, pour apprendre quelque chose sur la culture de l'endroit où on est. Pour répondre à la deuxième question, y a-t-il des solutions? Ah ouais,
4.
Ok, qu'en penses-tu toi, Maxime?
Comme Thomas, je pense qu'on peut faire plein de choses sympas, on peut se balader, on peut visiter des choses, et puis voilà.
Et toi, Boris, Igor?
C'est trop court. Hein. On peut assister à des événements sportifs, comme je sais pas, les matchs Ligue des Champions, par exemple le PSG hier qui a gagné contre Liverpool. Ok, donc le PSG qui a gagné contre Liverpool hier. Super.
Et toi, K-League?
On peut éventuellement, comme m'a dit Maxime, faire des randonnées ou aller grimper des montagnes, etc.
Ok. Donc pour la deuxième question, y a-t-il des solutions afin de trouver des voyages à bas prix? Qu'en penses-tu, Thomas?
Moi, je pense qu'on peut prendre le train, par exemple, pour des voyages à bas prix. Et puis en plus, c'est économique et c'est plus écologique que l'avion.
Et toi, Maxime?
Pareil, le train, c'est une bonne solution pour voyager.
Et toi, Igor, y a-t-il des solutions pour toi afin de trouver des voyages à bas prix?
On peut choisir les compagnies les moins chères. Par exemple, dans les compagnies aériennes, il y en a qui sont plus raisonnables, des prix plus raisonnables.
Ellie?
On peut aussi éventuellement, si c'est pas trop loin, prendre la voiture, qui du coup nous coûte que le prix de l'essence et de la voiture si on en a déjà une.
Ouais, il y a aussi des solutions comme réserver à l'avance ou être flexible sur les dates, par exemple ne pas partir en période de vacances scolaires, c'est une bonne idée. Donc voyager en dehors des autres saisons, et voilà. Donc pour la dernière question, pour vous, quel est le meilleur moyen de transport pour voyager? Vous m'avez dit le train, mais êtes-vous sûr que c'est la meilleure ou pas? Dis-moi Thomas.
Pour moi oui, parce que en fait ça joue entre l'avion ou le train, parce que le train c'est économique et plus écologique que l'avion, mais l'avion pour voyager de très grandes distances c'est plus pratique.
Maxime?
Comme Thomas, je pense que c'est bien le train.
Et Igor?
Moi je pense que l'avion c'est le meilleur moyen de transport. Parce que même si c'est un peu plus cher, on passe moins de temps, en général, si c'est à l'étranger, que le bus, la voiture ou le train.
Et K-League?
Je pense la même chose qu'Igor, notamment si on a un emploi du temps ou des vacances réduites.
Pour moi, le meilleur moyen, c'est le bus, parce que c'est confortable, économique, malgré que ça soit long, les voyages. Mais pour moi, c'est le meilleur moyen parce que c'est le moins cher et... De chaque année, le bus séduit de plus en plus de voyageurs en France. On peut conclure que suite à toutes ces questions, il est bien encore possible de voyager loin avec un budget raisonnable en 2025. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.
Donc merci Marius. Et puis maintenant, on va passer à la dernière chronique. Thomas, t'écoutes.
Eh bien alors, aujourd'hui, en période de vacances scolaires, les voyages lointains explosent. Je vais alors vous présenter les trois meilleures destinations du monde à visiter. Lors des vacances, un très grand nombre de personnes partent en voyage plus ou moins lointain. Le voyage touche un très grand nombre de personnes. Par exemple, 72% des Français ont voyagé en 2024. Vous ne savez pas où partir, vous avez envie d'aventure, alors préparez votre valise et vos billets car je vais vous présenter vos destinations de rêve. Alors pour commencer, j'ai choisi de vous présenter tout d'abord si vous aimez la campagne et les paysages verts, donc les hybrides extérieurs en Écosse. Une bonne raison d'y aller, découvrir l'Écosse ainsi que ses stars. Explorer cet ancien archipel avec une piste de randonnée de vélo de plus de 300 km qui traverse 10 îles ainsi que des plages argentées. De plus, des monuments néolithiques comme les pierres de Calaniche sont présentes. N'allez pas dans ce paysage pour profiter de la ville, allez pour profiter des paysages qui sont offerts et qui sortent ainsi de l'ordinaire. Ensuite, si vous aimez la montagne et la randonnée, bienvenue à Antigua au Guatemala. Si vous voulez y aller, c'est pour alors gravir un volcan, le volcan de Fuego qui porte bien son nom car c'est l'un des volcans les plus actifs du monde. Une randonnée au départ du volcan voisin d'Acatenango, qui est le troisième volcan le plus haut du Guatemala avec ses 3976 mètres d'altitude, qui permet ainsi d'assister aux premières loges à des éruptions spectaculaires. Cet itinéraire physique vous fera traverser des plantations de café et des forêts de nuages à flanc de montagne, alors prenez vos billets et rejoignez la montagne qui vous attend. Enfin, si vous aimez la ville, prenez vos billets vers Los Angeles en Californie, où le milieu culturel de Los Angeles est en pleine renaissance, destination Crenshaw, où le principal programme d'art afro-américain qui transforme actuellement une section de 2 km de Crenshaw Boulevard en y construisant des espaces communaux ainsi que des paysages qui comportent des centaines d'œuvres d'art.
Donc merci à tous et c'est la fin de cette émission. Donc Thomas nous a parlé du voyage des meilleures destinations. On a fait le débat avec Marius. Et pourquoi tu me coupes le micro? Et Maxime qui nous a aussi parlé du voyage. Donc merci à tous et on se retrouvera peut-être sur une prochaine émission.